Et ce jour-là, à cette heure-ci, c'est Bruno Canard que l'on retrouve pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Gwenaël Manac, qui vient de sortir Les Pierres de famille. Un récit fantastique parce qu'il y a un simple décalage pour construire son récit et interpeller le patriarcat, le déconstruire, tout ça en faisant intervenir les Moai. Nous serons avec Gwenaël Manac vers 14h15 et nous pourrons discuter de cette calcification à venir. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Une brève avec la programmation d'une exposition et d'une rencontre avec Sarah Fistol, qui peint aussi avec le pseudo de Mordicus, son nouveau pseudo. Sarah Fistol, c'était le premier, comme on pouvait l'imaginer. Et ça se passera à la librairie La Bestiole. La Bestiole, mais oui, à Bieulefort, cette librairie indépendante, tenu par quatre personnes, qui a un fonds, ma foi, excellent. C'est toujours bon d'avoir un bon fonds. Et donc, on va pouvoir découvrir de nouvelles œuvres de Sarah Fistol. Et rien que ça, c'est réjouissant. Donc, on se retrouve samedi à La Bestiole à Bieulefort. Virgule. Vous avez reconnu? C'était les Shadocks. Je voudrais démarrer cette émission qui est un peu sous le signe de la famille en vous présentant le dernier livre de D. Grégoire Carle, qui a signé il y a quelque temps sous le nom de Grégoire Carlé. L'accent a disparu. Son dernier livre, Le lierre et l'araignée, est un récit qui permet de revenir sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale en Alsace. C'est donc une fresque importante de 200 pages où Grégoire Carle va parler de son grand-père résistant et des réseaux de résistance qu'il y avait donc à ce moment-là en Alsace. Les deux réseaux principaux, c'était la Feuille de Lierre et la Main Noire. Réseau d'ados, et c'est ce que nous découvrons dans ce récit, puisque les résistants de ces deux réseaux avaient entre 14 et 16 ans et un engagement d'une très grande intensité. Donc c'était vraiment ça, un des points très forts de ce récit, c'est de pouvoir mettre en lumière cette résistance adolescente. Alors Grégoire Carle va construire un récit croisé entre les parties de pêche avec son grand-père, avec ses liens très puissants avec la nature, et puis les traces qui restent présentes dans le passé, de ce passé de la Seconde Guerre mondiale qu'ils vont découvrir ensemble dans la nature. Donc, Grégoire Carle va évoquer dans une interview complémentaire au livre qu'il n'a pas pu collecter auprès de ce grand-père résistant tous les détails de ce réseau, la Feuille de Lierre. Et donc, c'est auprès d'un voisin qui a été également membre de ce réseau de résistance qu'il va pouvoir combler tous les trous qu'il y avait dans le récit et pouvoir ainsi construire cette fresque où on a cette résistance de ce groupe d'ados et qui va rencontrer aussi ceux de la Main Noire. Alors, il y a en, en Alsace une sorte de tabou sur cette région qui est passée finalement, qui a été ballottée entre la France et l'Allemagne et qui, lorsque la libération a été faite et que l'Allemagne s'est retrouvée française, il y avait une sorte de difficulté et même d'autocensure parfois pour accepter la culture française alors qu'il y avait une culture allemande qui était pour certains teintée de nazisme. Et donc, il fallait occulter cela. Et Grégoire Karl de dire qu'il a même hésité à mentionner que un des gardiens du quartier était, donc un des gardiens nazis du quartier, était en fait le cousin germain de ce grand-père. Donc, il y a une façon, avec le lierre et l'araignée, de soulever ce tabou et de montrer ce qu'est vraiment cette Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale, l'essentiel se passant dans les années 40-41, et puis bien sûr quelques autres moments par la suite. Alors, être résistant en Alsace à ce moment-là, en étant ado, il y a eu une découverte d'explosifs dans des bunkers, dans certaines parties souterraines de la ligne Maginot, et ils ont, grâce à ces stocks d'armes trouvés, eh bien, ils sont passés à l'acte. Donc, les réseaux de moments de sabotage, tous les réseaux qui se relient. Il y a aussi, bien sûr, l'arrestation qui est décrite, mais quand même sommairement. Et puis, torture, passage dans le camp de rééducation de Schirmeck. Et on a donc tout un passage assez important. Alors, Grégoire Karl est un auteur de bande dessinée qui a un graphisme pouvant s'adapter au récit, ce qu'il a fait avec le lierre et l'araignée. Je ne l'ai pas dit, mais l'araignée désignant l'occupant nazi, il y a quelques images métaphoriques où on voit une très belle épère avec la croix gammée qui est représentée sur son dos. Et il y a donc, avec cette adaptation au style, un choix d'un dessin plutôt expressionniste avec une couleur directe qui est surmontée et rehaussée de noir et qui va permettre à Grégoire Karl de, sans appui volontairement, en poussant l'expressionnisme à son maximum, mais en donnant des images intenses de différents passages, puisque cette résistance alsacienne pendant la Seconde Guerre mondiale occupe une grosse partie de ce récit. Alors, il y a j'ai des réserves sur ce livre parce que certains points m'ont vraiment interpellé, notamment sur ce passage entre, et c'est souvent le principe de ce type d'autobiographie, ce passage entre la situation vécue aujourd'hui avec les souvenirs, avec le grand-père, et puis le moment de la résistance que l'on veut évoquer, ou le moment de la période qui est un fait marquant. Alors on pense tout de suite à Maus de Art Spiegelman, qui était dans la même situation, mais Spiegelman avait mis en scène ses interpellations en tant qu'auteur pour traduire en bande dessinée ce que représentait le ghetto de Varsovie pour son père. Là, il y a une sorte de déséquilibre entre les parties de pêche partagées avec le grand-père et les situations extrêmement tendues, extrêmement violentes de la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Et il y a quelques scènes de torture qui sont même sommairement représentées, mais qui sont quand même représentées avec appui. Et c'est pour moi un déséquilibre, même si dans ce rapport à la nature, il y a une façon de marquer, de montrer ce qu'est la vie aujourd'hui de l'auteur. Et puis il y a aussi un statut de l'image. Comment représenter l'occupant nazi? comment représentait le nazisme, notamment après tous les récits qui en ont été faits. Il y a, avec l'image de bande dessinée, avec le dessin, effectivement une possibilité de marquer, de représenter, de créer des images plutôt allégoriques. Et c'est ce que fait Grégoire Carle, mais avec une insistance qui me dérange, qui se superpose avec cette remontée du néo-nazisme aujourd'hui. Il y a notamment des grandes images, des images très allégoriques, où on voit le symbole de l'aigle avec la croix gammée. On voit des croix gammées de très nombreuses reprises, et pas forcément simplement comme une présence dans l'espace quotidien au moment de l'occupation. Il y a une façon de la mettre en image qui se superpose avec cet excès et cette tendance extrêmement nauséeuse du néo-nazisme aujourd'hui. Donc ça, c'est à mon avis, une piste, une réflexion qu'il est important d'avoir sur comment représenter aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe avec cette situation politique et ce regain d'intérêt pour cette période par des personnes qui ne l'ont absolument pas connus et qui veulent éviter tout le discours qui, sur la mémoire et la transmission de ces mémoires qui peut en être faite. Le lierre et l'araignée de Grégoire Carle est publié par les éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Les 200 pages de ce récit sont au prix de 30 euros et le livre a été imprimé en Belgique. Une autre vision de la famille est celle de Nadja avec Apollon, le deuxième tome de sa série « Les dieux de l'Olympe ». C'est quand même une famille, hein. Zeus, Héra, Apollon. Voilà, donc il faut quand même en parler. Alors c'est ce que fait Nadja. Elle en parle et il y a un petit résumé que l'on peut découvrir. Alors souvent c'est sur le site internet, cette fois ce n'est pas en quatrième de couverture, mais qui présente assez bien le livre. Lecture. Les taux est une nymphe séduite par Zeus, s'apprête à accoucher d'Artémis et Apollon, sauf que la régulière de Zeus, Héra, la fait poursuivre par Python, un cruel serpent, afin de l'en empêcher. Ce n'est que le début d'une vie de dingue pour Apollon, futur dieu de la musique, trop bégé, qui vivra mille aventures jusqu'à devenir le plus sage de tous les dieux. Tous les épisodes de cette sitcom légendaire dans lequel Apollon tient le premier rôle vous seront racontés avec tout l'humour et le talent de Nadja dans Dieu et déesse de l'Olympe, tome 2. Voilà, ça c'est la mise en œuvre. Alors, comment ça se passe quand on a le livre entre les pages? Alors c'est un livre dense parce que Les éditeurs ont choisi un papier à fort grammage, mais il y a quand même 128 pages. On a vraiment l'impression qu'il est plus épais. Et lorsqu'on ouvre, et on peut lire tout de suite sur la couverture, dès 7 ans. Donc ça s'adresse aussi aux jeunes. Et c'est une mise en forme, une mise en image très libre, avec peu d'images par page, il n'y a pas de cadre aux cases, il y a un texte qui est tout à fait parfaitement lisible, très clair, mais qui est écrit avec beaucoup plus de liberté, pas cette rigueur que l'on a par exemple dans les histoires de Tintin où tout est absolument millimétré. Nadja a choisi une autre forme, beaucoup plus libre. Et ça se sent aussi dans le dessin même des personnages qui sont dessinés avec une ironie vacharde, Zeus, il ressemble pas à ce grand personnage chevelu qui trône, très fier. Et ben là, il n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Et puis, ben, ils sont tous comme ça. Et le Apollon en question, ben, c'est pas celui dont on rêve. Hein. Alors, c'est toute la force de Nadia d'utiliser cette ironie absolument cinglante pour représenter tout ce joyeux monde de déesses, de dieux, de nymphes, de satyres et autres créatures dans ce joyeux monde des divinités. Alors la mythologie grecque, comment elle est souvent représentée avec tout cet aspect légendaire et sur lequel bon nombre de mythes sont construits, eh bien là, c'est tout simplement déconstruit. Et il y a donc un rythme très enlevé où les héros, les dieux vont communiquer entre eux avec des espèces de portables qui vont leur permettre d'avoir des informations très facilement. Ils vont pouvoir se déplacer dans les airs comme de vrais super-héros. Et puis, il y a vraiment tous les personnages que l'on a pu retenir de la mythologie, mais aussi d'autres dont on a tout oublié, qui vont joyeusement s'affronter, s'assassiner, se suicider, se trucider. Et c'est vraiment réjouissant. Alors pourquoi dès 7 ans ? Parce qu'il y a, je crois, une grande évolution dans l'humour et que Martine et Caroline sont depuis longtemps reléguées aux oubliettes, et que si votre mamie vous en offre encore à vos petits-enfants, il faut la prendre par la main puis lui dire dans un petit coin, c'est plus tout à fait d'actualité, il y a des choses plus intéressantes. Et ces dieux de l'Olympe en font partie, ne serait-ce parce qu'il y a une qualité d'humour dans les dialogues même qui sont tout aussi incisifs, réjouissants, et qui fait que de bout en bout, les 128 pages de ce livre se lisent avec un enthousiasme et une joie qui est, je pense, sera assez communicatif autour de vous. Et simplement l'idée que des jeunes de 7 ans soit biberonné à de tels récits, j'imagine quel créateur enthousiaste et libre ça puisse faire, cela fera dans l'avenir. Ça, c'est une grande expérience de liberté, et autant l'avoir de 7 ans. Apollon, le tome 2 des dieux de l'Olympe, donc c'est publié dans la collection Ondine des éditions Dupuis, c'est signé Nadja. Ces 128 pages sont au prix de 19 €. Le livre a été imprimé en France et c'est dès 7 ans. Musique. Thank you. le décalage fantastique du récit et ce point de vue qui permet au lecteur d'être dans une situation qui n'est pas celle de notre réalité et qui pourtant, au fil des pages, va permettre de l'éclairer de façon lumineuse. Dans Pierre de famille, Gwenaëlle Manac va imaginer une calcification, une maladie étrange qui va toucher de nombreux humains, quasi généralement des hommes, et qui vont être un peu victimes de leur patriarcat. Et donc c'est cette calcification qui fait de ces hommes des Moai va complètement envahir l'espace public, l'espace politique, et ainsi au fur et à mesure que on va suivre deux frères d'une famille, Camille et Agnelle, qui vont s'engager dans les nouvelles structures de soins mises en place pour tenter d'apaiser les familles et les personnes atteintes de ce mal étrange. Gwenaëlle Manac, donc, dans un récit d'ampleur, il fait 176 pages, avec un dessin qui rappelle ce tracé très anguleux des Moai, qui va donner ainsi à cette histoire une façon d'attaquer un peu de front la question du patriarcat, comment le déconstruire, et au fur et à mesure que le récit avance, le lecteur ainsi se plonge dans un retour et une mise en perspective de nos sociétés contemporaines et de cette présence très insistante et prégnante de cette virilité active chez de nombreux hommes. Gwenaëlle Manac est avec nous pour nous parler et discuter. On va évoquer, bien sûr, les processus de création de ce récit sur cette question essentielle de la masculinité. Bonjour Gwenaëlle Manac.
Bonjour.
Alors, comment est née ces pierres de famille et ces figures de ces statues de l'île de Pâques qui sont quand même une sorte de représentation exceptionnelle et qui est dans notre imaginaire collectif?
Oui, bah, d'ailleurs, c'est peut-être partie de ça. Je pense que ça a commencé par des questionnements personnels et puis un peu une à force de me confronter dans ma vie personnelle à des choses que j'arrivais pas à comprendre, et notamment à des personnes que j'avais l'impression de voir emmurées dans une forme d'orgueil viril, ou en tout cas dans une espèce d'injonction qui se faisait à eux-mêmes de devoir garder la face. Et du coup, l'image qui m'était venue, c'était des statues. Et aussi un processus qui est lent de calcification, donc de durcissement, de au fur et à mesure que les difficultés arrivent, de au fur et à mesure que les reproches arrivent, que les gens nous font des reproches, et qu'il faut quand même garder la face, on va performer quelque chose pour rester solide, et on va se durcir du coup. Et les statues de l'île de Pâques, en fait, bah, comme vous l'avez dit juste à l'instant, c'est une histoire d'imaginaire collectif aussi, c'est-à-dire que comme j'avais en tête cette phrase de garder la face, et que les statues de Pâques sont des immenses faces, en fait, il n'y a quasiment plus que la face qui reste, il y a des bras, des jambes, mais elles sont minuscules, et c'est surtout cette belle tête immense et très digne, et je trouve que ça venait me rendre service à plusieurs endroits, notamment voilà, c'est assez digne, une belle fierté, les statues de Pâques sont vraiment majestueuses. Et en même temps, en plus, elles ont perdu leurs yeux au fur et à mesure du temps, apparemment. Et du coup, maintenant, il y a quelque chose d'assez éteint, en tout cas d'assez austère. Donc, ça correspondait bien à ce que je cherchais. Et puis, bon, je pense que je suis un peu obligé de reconnaître que l'usage du Moai fait par Manu Larsonnet dans Blast a dû me marquer quelque part. En tout cas, j'y ai pas pensé activement, mais aujourd'hui, avec le recul, c'est obligé que ça ait joué.
Alors pourtant, Gwenaëlle Manac, chez Larsonnet, il y a ces statues, alors qui sont plus lointaines dans le récit, qui hantent donc le personnage de Manu Larsonnet. Mais il y a un dessin qui est très rond, en opposition à celui de Larsonnet. Là, on a le sentiment, en tout cas, que vous avez adapté votre dessin à ce caractère un peu tendu, vif, d'un tracé, d'un visage d'un moine de l'île de Pâques.
Oui, j'avais envie que mon dessin puisse marquer la différence entre ceux qui sont encore en mouvement et ceux qui sont en train de se calcifier. Et pour le détail technique, j'ai gratté directement les murs des endroits où je travaillais. Donc je cherchais des pierres qui soient apparentes et je prenais ma feuille directement à planche de dessin et j'allais gratter avec une ligne graphite sur le mur, de manière à avoir vraiment une texture caillou directement sur la page. Ça, c'est parce que j'avais besoin qu'on puisse comprendre que la peau, même si certains personnages n'avaient pas encore tout à fait les aspects de statue, qu'ils aient déjà une peau qui devient un peu dure, une cure solide, comme on dit, version un peu plus pathologique. Et oui, non, le Manu Larsonnet, je pense que c'est plus après coup, a posteriori, que j'analyse cette filiation, mais en tout cas, c'était plutôt pour le côté garder la face. Et puis aussi, peut-être que dans l'imaginaire collectif, l'île de Pâques, il y a quelques ouvrages qui ont été écrits sur le lien entre l'île de Pâques et un effondrement potentiel de cette civilisation. Et en tout cas, il y a une association d'idées entre l'île de Pâques, cette civilisation qui a construit tout un tas de statues comme une forme d'obsession et qui s'est ensuite éteinte. Bon, alors après, dans les faits, quand on vérifie, c'est pour plein d'autres raisons, mais en tout cas, il y avait un lien pour moi et avec un peu un monde qui se met la tête dans le mur, ou en tout cas qui se met la tête dans quelque chose une forme d'obsession qui l'amène un peu, pas forcément à sa perte, mais en tout cas à plus de violence et plus de difficultés, quoi.
Alors, dans votre récit, Gwenaël Manac, on est avec une famille. Donc, le grand-père est déjà une statue figée depuis longtemps. Paul, le père, entame sa calcification et Camille et Aniel, les deux fils, vont essayer d'apaiser les choses et vont travailler donc à ce centre de soins. Comment s'est construit votre histoire? Est-ce qu'il y a vous avez trouvé la totalité du récit, de la trame avant de démarrer le dessin, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus intriqué entre dessin et récit?
Ben justement, avant cet ouvrage, j'avais l'habitude de travailler plutôt bien séparément, en écrivant un script assez jalonné et ensuite en mettant en découpage et le dessin ensuite venait juste mettre en lumière tout ça. Et sur celle-ci, j'avais plus envie justement d'intriquer les deux. Donc j'ai construit l'histoire comme un peu des grands points de passage dont j'avais envie, que je savais que je voulais mettre dans l'histoire. Je notais quand il y avait des scènes qui me venaient comme pouvant avoir lieu plus tard dans l'histoire, je les notais à part, mais je les inscrivais pas dans une trame. Et donc j'avais comme ça quelques points de passage obligés dans mon histoire, et la suite c'est un peu écrit au fur et à mesure du découpage. Du coup, il y a plein de choses qui se sont passées sans que je sois au courant. En fait, enfin, bien sûr que j'étais au courant finalement, mais en tout cas, c'est quelque part les personnages se sont autodéterminés d'une certaine manière au fur et à mesure que je les dessinais. Ouais. Il y a un peu comme quelque chose comme ça qui s'est passé. Ouais.
Comment avez-vous travaillé les dialogues? Parce qu'il y a vraiment, on est dans leur quotidien, le quotidien, cette famille avec la grand-mère, avec au centre de soins, la façon dont on met en place une thérapie pour essayer d'apaiser ceux qui sont en train de se calcifier. Comment est-ce que vous voulez les lisez à haute voix? Est-ce que vous les avez repris une fois l'ensemble dessiné? Comment travaillez-vous les dialogues?
Je pense que c'est un petit cinéma intérieur que je me fais. C'est-à-dire que je place les décors, je place les enjeux, je place aussi les caractères dans ma tête. Et aussi, quelque part, comme j'ai un point de passage derrière, je sais que je veux aller à tel endroit. Et quand ça se passe bien, c'est-à-dire que le mobile du personnage puis finalement, au bout d'un moment, c'est plus de mon ressort. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, les personnages ont leurs propres intentions, et moi, j'essaie juste de les articuler. Quand cette intention-là, elle est raccord avec là où je veux les emmener, bah, ça se fait tout seul. Donc, la scène se déroule, et puis j'ai juste à la montrer au lecteur. Mais il y a des moments où c'est un peu plus compliqué parce que j'ai envie d'emmener le personnage à un endroit, et puis finalement, il est un peu réticent, c'est plus difficile, ou alors les dialogues que je voudrais leur donner ne collent pas du tout avec leur comportement et avec un comportement qui serait cohérent dans cette scène-là. Et donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à traiter des sujets, à traiter des scènes que je n'avais pas du tout prévues. Puis typiquement, par exemple, la notion de soins. Je savais que je voulais qu'il y ait un dispensaire dans lequel on essaie de prendre en charge ceux qui sont en train de se calcifier. Mais déjà, à la base, je ne savais pas forcément qu'un des deux frères allait y travailler. Et ensuite, je ne savais pas qu'il y allait avoir des enjeux internes à cette même structure, qu'il allait y avoir des accords entre les employés, qu'il allait y avoir toute une problématique autour de qu'est-ce que ça veut dire de soigner quelqu'un. Est-ce que soigner, c'est forcément guérir? Est-ce que guérir et soigner, c'est la même chose? La notion aussi d'une forme de résultat à atteindre dans le soin, où en fait, c'est des problématiques qui ont été amenées par les personnages et par le fait que c'est des situations qui étaient trop complexes pour être résolues comme je l'avais imaginé à la base, avant d'y réfléchir, en fait. Donc oui, il y a plutôt un truc un peu organique, qui est d'ailleurs assez agréable, je trouve.
Finalement, ce centre de soins, Gwenaël Manac, c'est une façon de montrer que la virilité, le patriarcat, la flatterie permanente de ces hommes à cette place-là, ce lien entre stature et statut est finalement très ancré et très difficile à déconstruire.
Oui, tout à fait. Peut-être que ce qui s'est aussi passé en écriture, c'est que je me suis... D'abord, j'ai commencé à écrire comme quelque chose, comme un observateur qui observerait un phénomène extérieur. Et qu'en fait, comme l'écriture était un processus long et qu'en plus, j'avais eu l'idée un an avant de m'y mettre, c'est-à-dire que j'étais sur un précédent livre, et ben finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de subtil et que j'en étais moi-même imprégné en tant qu'homme et ayant été élevé comme un homme et avec tout un tas de manières de me valoriser, de manières de chercher ma place et d'une manière de m'identifier aussi à certains comportements. Et que c'est plein de petites choses. Alors tout n'est pas grave, tout n'est pas source de violence, mais il y a plein de petites choses qui nous amènent, qui nous font tendre vers un comportement et que même si je pense que tout le monde a une fierté, y compris les femmes, la manière que les hommes ont de l'articuler, et la manière que pour les hommes de se valoriser dans des comportements, dans des performances et dans justement cette idée de devoir garder la face, en tout cas dans les stéréotypes de ce qu'on nous propose comme comportement. On en est tous un petit peu imprégnés, je pense. Et chacun à sa manière, mais c'était un peu l'envie que j'avais, c'était de montrer le côté ordinaire et le côté le côté ordinaire de ces choses-là, ouais.
Gwenaël Manac, je vous propose un second morceau donc de ce que vous avez choisi. Et on se retrouve donc dans quelques minutes et on va parler un peu plus dessin. A tout de suite. Thank you. Vous êtes sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Gwenaël Manac pour son livre Pierre de famille, Les pierres de famille. Et nous évoquons maintenant la partie dessin. Comment vous avez évoqué cette utilisation de la pierre naturelle pour donner une matière à ces statues ? Qu'est-ce que ça représente de les dessiner, par exemple, toutes les premières pages où elles envahissent de nombreux endroits de la ville, elles sont à l'intérieur des maisons de façon très imposante. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dessine ces cases ?
Je pense qu'il y a d'abord quelque chose d'assez agréable, parce que c'est des statues, bah, comme je le disais tout à l'heure, qui sont assez majestueuses, il y a quelque chose d'assez agréable à les dessiner, d'assez reposant, parce que c'est un motif, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Enfin, elles sont toutes identiques, donc il y a un certain plaisir à les dessiner, je pense. C'est des grandes lignes, il y a cette arête du nez qui est très longue, et du coup, quand en plus on veut essayer d'accentuer leur hauteur, on va étirer cette ligne-là. Et moi, j'ai un dessin qui vient plutôt de quelque chose d'assez technique et j'ai passé beaucoup de temps j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner les reliefs en général, hein, les profondeurs, etc., et les volumes. Et du coup, c'est vrai que dessiner ces statues, c'était un plaisir un peu de sculpteur. C'est-à-dire que je m'amusais à du coup leur donner une inclinaison qu'elle est. Enfin, il s'agissait aussi de suggérer qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils sont intégrés à leur environnement. Un peu comme on peut l'y voir sur l'île de Pâques où en fait ils sont un peu immergés dans le sol. Donc là en l'occurrence c'était plutôt immergé dans les murs, immergé dans les façades. Donc il y avait un plaisir un peu de sculpteur à les déplacer dans l'espace et à trouver une manière qu'ils allaient pouvoir être d'avoir l'air à la fois complètement indissociable de leur espace, complètement incrusté, et à la fois lourd, à la fois et à la fois un peu en naufrage, quelque chose un peu en naufrage, c'est-à-dire que je cherchais souvent à les mettre un peu en deux billets, ou en tout cas comme si c'était en train de s'affaisser dans leur ciment.
Gwenaël Manac, quel dessinateur êtes-vous ? Comment êtes-vous sur votre table à dessin ? Parce que c'est un dessin qui est quand même à l'énergie, comment ça se passe ?
Comment ça se passe ?
Vous êtes debout à y aller, ou au contraire il y a une retenue, il y a un geste qui s'arrête rapidement pour pas détailler à l'excès?
Je pense que c'est un problème que je peux avoir de détailler à l'excès, donc je pense que je me surveille en dessinant, et je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour des dessinateurs qui vont être plutôt épurés. Je suis beaucoup influencé par le manga, qui pour le coup est très dynamique, même s'il est moins épuré. Mais en tout cas, il y a la dynamique et l'épure, c'est des choses qui m'intéressent et j'ai envie d'aller vers ça. Mais spontanément, en tout cas, je viens pas d'un dessin comme ça. Je vais plutôt d'un dessin chargé, dans le détail, sur lequel je peux passer des heures. Donc là, ce qui peut se passer, donc je fais une esquisse qui est assez vivante. Je prends une feuille de brouillon, je prends un crayon de couleur, d'abord un crayon de couleur orange, et là je vais remplir la page d'une foule de traits. Je vais faire des bonhommes patates, et le but c'est d'avoir vraiment 0% de détail, et je vais placer les compositions, les perspectives. Si ce trait orange ne me convient pas tout à fait, je viens corriger avec un trait vert, donc un crayon de couleur vert foncé qui va venir que visuellement, je peux le superposer à cette première esquisse orange. Ensuite, je vais décalquer ça. Donc ça, c'est une étape qui prend très peu de temps, normalement. Le but, c'est vraiment de travailler le geste et vraiment de justement venir contrecarrer moi, ma tendance au détail et à la propreté. Et je viens superposer à ce brouillon-là, je viens superposer la feuille définitive sur laquelle je fais une esquisse avec un petit crétarium rouge, donc quelque chose d'assez léger, mais qui me permet juste de placer un peu mieux les détails et puis surtout juste de reporter ce que j'ai en dessous. Et une fois que l'esquisse rouge est faite, là je fais le dessin définitif. Alors je peux pas vraiment appeler ça un ancrage parce que c'est du crayon, mais ça ressemble à un ancrage dans le sens où c'est le dernier trait, quoi. Et donc j'utilise un crétarium gras et je viens dessiner. Et à ce moment-là, effectivement, comme j'essaye de encore une fois de venir m'obliger à l'épur. Et une des techniques que j'ai trouvées, c'est donc avec mon trait, je fais pas du tout d'ombre. Et je place des ombres avec avec des formes géométriques que j'ai découpées dans du papier. Donc il faut s'imaginer un peu des pochoirs de petites formes géométriques, des petits triangles, des petits ronds. Et du coup, ces triangles et ces ronds, je vais venir estomper le crayon, mais à travers ces pochoirs, donc une forme de... Ouais, je sais pas comment dire. Avec mon pouce, je viens frotter le dessin pour créer une zone de gris, mais dans la forme prédéfinie du triangle et du rond, où il y a des losanges, il y a plein de choses. Et ça m'oblige, en fait, à faire des ombres simplifiées, alors que moi, j'ai tendance à venir travailler en détail le relief d'une capuche, le relief de trucs qui ensuite pour moi ont tendance à trop figer le dessin. Donc pour garder une dynamique, je m'oblige à faire les ombres à travers des pochoirs et ça participe des volumes que je laisse. Alors finalement, je trouve qu'au final, vu qu'il y a les couleurs, ça se voit pas beaucoup ces formes géométriques, on peut les voir à des moments mais elles se voient plus trop. Et moi, elles me permettent de à la fois donner un relief auquel je tiens et à la fois m'obliger à une forme de pur. Et effectivement, par contre, pour vous paraphraser, je travaille debout. Donc ça participe aussi, je pense, peut-être d'une mobilité que j'essaie d'avoir. Voilà. Je pense avoir fait le tour de mon processus.
C'était très bien. Et pour la mise en couleur,
c'est... Pour la mise en couleur, c'était un petit naufrage à l'échelle de ce livre. C'est que je m'étais mis en tête que j'allais, comme d'autres dessinateurs un peu virtuoses, que j'allais faire les couleurs à la main, et en tout cas que j'allais faire les premiers aplats de couleurs à l'aquarelle sur du papier. Et donc j'allais utiliser un peu la méthode traditionnelle des bleus, c'est-à-dire que j'allais imprimer mon dessin en bleu sur un papier épais et que j'allais pouvoir faire les aquarelles directement dessus. Et en fait, c'est arrivé au bout de 2 ans de travail où j'étais fatigué et où en fait aussi je fais beaucoup d'erreurs. Alors soit j'accepte pas assez mes erreurs, soit j'en fais trop, ça va dépendre du point de vue, mais en tout cas j'étais pas du tout content de ça. Donc finalement, j'ai fait marche arrière et j'ai recommencé les 20 pages que j'avais déjà faites, je les ai recommencées depuis le début. Et cette fois-ci, j'ai fait tout à l'ordinateur. J'ai scanné une série de tâches que j'avais gardées, une série de tâches pour pouvoir faire justement des ombres ou des brouillards ou des textures. J'ai tout fait à l'ordinateur.
Qu'est-ce que va permettre d'avoir fait les pierres de famille ? Comment se dégage l'horizon pour vos livres à venir, Gwenaël Manac ?
Sur le plan du dessin, alors ?
Bah, pas forcément, sur le plan du récit, parce que le récit est quand même essentiel aussi dans ce livre.
Ouais. Et ben, je pense que comme beaucoup d'auteurs, j'ai eu une phase un peu de grand questionnement, parce que quand le livre sort, on a toujours un peu de temps avant de recevoir les retours des lecteurs, et il y a toujours un moment de doute, où on se dit mais pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à faire ça, etc. Et aujourd'hui, je me sens plus attiré vers l'écriture. En tout cas, je sais que sur les pierres de famille, j'ai pris plus de plaisir à l'écriture qu'au dessin. Donc en tout cas, j'ai envie de travailler l'écriture. Le dessin est toujours quelque chose d'agréable et un moment un peu méditatif que j'aime beaucoup, mais je sais pas quelle place il aura dans mes prochaines histoires ou prochains projets. Je pense que j'ai encore envie de le mettre au service du propos. Comme j'ai pu le faire par le passé, j'ai fait un documentaire avec mon frère qui est journaliste. Et à ce moment-là, j'ai vraiment épuré mon dessin. J'ai enlevé beaucoup de choses pour qu'il soit plus simple, à la fois à l'œil et à la fois à faire au travail. C'est-à-dire qu'il mette moins de temps à être fait et à la fois qu'il soit beaucoup plus simple à lire et qu'il, qu'il y ait moins de place entre guillemets à la contemplation, notamment pour un documentaire, j'avais l'impression que c'était vers ça qu'il fallait que j'aille. Aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de l'épurer plus, mais en tout cas, j'ai envie qu'il soit au service de mon propos. Ouais. Donc on verra, techniquement, on verra ce que je vais faire. J'aime toujours beaucoup travailler comme je l'ai fait. J'ai envie de m'éloigner de l'ordinateur le plus possible. Et comme je suis attaché à la couleur, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ces temps-ci, je travaille beaucoup au crayon de couleur. Donc, à voir si pour un prochain récit long, je décide de travailler comme ça. En tout cas, il y a plein de choses possibles.
Merci beaucoup, Gwenaël Manac. Je vais rappeler les références de votre livre. Les pierres de famille, donc, c'est publié par les éditions Six Pieds Sous Terre et les 176 pages de ce livre sont au prix de 26 euros. Mais je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt.
Bien, merci.
Au revoir.
Merci de m'avoir invité.
Merci, au revoir. Dernière histoire de famille pour finir cette émission d'aujourd'hui avec Le lait paternel, tome 2, Sous la surface. Alors, ce récit qui sera en 4 volumes est signé Uli Osterlé. Et dans une postface du tome 1, il raconte comment ce lait paternel est un récit autobiographique. L'auteur à un père qui a disparu, il avait 7 ans, c'était un fantôme. Et donc il y a eu des développements dans sa vie, la posture de sa mère qui était dans une grande difficulté financière, qui a dû faire un deuxième travail pour pouvoir l'élever avec un quotidien qui était très dense. Et donc lui a reçu en héritage certains éléments de la personnalité de son père. Et en lisant ce lait paternel, on pense au livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué, où on a cette transmission qui apparaît et qui se fait un peu indépendamment de la présence du père, puisqu'il n'est pas là. Alors, ce tome 2 est un récit qui tient pleinement ses promesses par rapport au tome 1 où on découvrait deux hommes, Rufus Imel, il faut que je repère bien son nom, parce qu'il n'est pas facile à prononcer, Himmelstos, qui veut dire « heurte-ciel » en allemand, et son fils Victor. Alors, Rufus est vraiment pleinement décrit dans sa vie de patachon, dans lequel il ignore femme et enfant, dont son fils Victor, et vit en claquant l'argent du foyer, en vivant largement au-dessus de ses moyens, et il y a donc une sorte de descente aux enfers qui se fait dans ce premier tome. Dans le deuxième tome, on reprend le fil où la descente aux enfers a été faite et Rufus est dans la rue. Victor, nous l'avons découvert dans cette narration croisée et qui est aussi qui a une grosse tendance à fuir le foyer où il a un fils, Bella, et sa femme attend un deuxième enfant, et il est pris complètement par sa bande dessinée qu'il a réalisée, et les éditeurs sont impatients, il faut qu'il travaille sans arrêt. Et donc on a cette absence qui se transmet et qui se poursuit. Donc nouvelle narration croisée, où cette fois la place de Rufus est assez importante, même si les moments où on va croiser Victor, où on va l'accompagner, vont aussi être marquants, mais c'est vraiment la façon dont Rufus va reprendre vie, va avoir une sorte de rédemption avec les insistances de Bernie, un homme rencontré par la rue, et il va finir par servir dans un centre d'aide sociale, à une cantine populaire, et donc, ce cheminement est très lent, vraiment à l'image de ce que peut être la réalité, où ce n'est certainement pas un coup de baguette magique qui fait que vous allez subitement découvrir la force de l'entraide. Ce qui est la grande force du récit et de l'écriture d'Ulrich Osterle, d'Uli Osterle, c'est cette capacité déjà à être d'une très grande justesse dans les dialogues. Il y a une taille de la calligraphie qui est suffisamment réduite, qui permet d'avoir des propos intenses, parfois denses, sans qu'il y ait une occupation de la case qui soit démesurée. Donc on est toujours dans un équilibre qui est vraiment constamment favorable à la lecture et à l'intensité et à la dramaturgie du récit. Il y a donc une crédibilité qui va se faire dans le mouvement personnel et intérieur de Rufus, également de Victor dans une moindre mesure, mais c'est certainement ce que l'on découvrira dans les deux prochains tomes. Il y a de plus un travail graphique, un travail de dessin, un travail de mise en scène, et qui permet au personnage d'avoir une très grande profondeur. Il y a chez Uli Osterle une aisance pour dessiner les statures, pour camper les personnages, pour donner des expressions, et celle de Rufus ne manque absolument pas de nuances, mais aussi d'énergie et d'intensité. Et il y a donc dans ce dessin qui garde une vivacité, une certaine tension systématiquement dans le trait, un peu à l'image de ce que nous a dit Gwenaël Manac, qui va être associé à un travail de bichromie qui permet donc à Uli Osterle de jouer avec les périodes. On a donc la fin des années 70, 75-77 pour le parcours du père Rufus et les années 2005 et suivantes pour Victor, son fils. Et donc à chaque fois, on va passer très facilement d'une période à l'autre, à tel point que les récitatifs pourraient même être supprimés, ce qui indique la période dans laquelle on se trouve. Et puis donc ce travail sur la bichromie va donner vraiment une intensité aussi à la page, aux ambiances, aux atmosphères, une utilisation du noir et ces couleurs qui vont vraiment animer complètement chaque image. Il y a donc cette qualité de lettrage qui permet vraiment une intensité dans les dialogues. Et donc c'est un récit, comme son nom l'indique, qui est un remarquable récit sur la filiation. Et ce lait paternel, eh bien, va se têter, à mon avis, se biberonner même avec beaucoup de plaisir. C'est une des grandes traductions, une des grandes bandes dessinées allemandes. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, cet auteur est vraiment un auteur de grand talent. Le lait paternel, tome 2, Sous la surface, c'est un récit de 136 pages. Donc c'est publié par les éditions d'Argo. Le premier tome avait été publié en 2016 et c'est seulement en 2022 que les éditions d'Argo avaient publié le tome 1 du lait paternel. Et donc ces 136 pages sont au prix de 21,50 €. Le livre a été imprimé en France. Merci Fabien pour cette technique et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.